الرحيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Les chefs en islam, avant de commencer, nous avons une pensée pour notre imam, donc Mouana Hassan, dont le papa est très malade à l'hôpital. Et nous faisons tous doigts qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la santé, shifa kamila, inshallah. Alors, la dernière fois, on avait abordé le deuxième bab, le deuxième chapitre de Riyad al-Salihin, ce chapitre qui est consacré au tawba. Et parmi les hadiths qu'on avait vus la dernière fois, alors exactement, on avait vu tout d'abord quelles sont les conditions pour que le tawba soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. On avait vu que pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir d'un musulman, il faut que celui-ci soit sincère. Et pour être sincère, lorsqu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avant toute chose reconnaître l'erreur. Parce que la première étape pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire on ne montre à rien à Allah, Allah il sait ce qu'il y a dans le cœur. Mais la première étape, c'est de montrer notre sincérité. Que lorsqu'on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vraiment après une étape de réflexion et on a fait ce qu'on appelle i'tiraf, la reconnaissance de nos erreurs. On a vu également que la personne qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit avoir le niyat sincère de ne plus jamais recommencer ce péché et en même temps, elle, intérieurement, elle doit regretter sincèrement les péchés qu'elle a pu faire durant ces périodes de jahiliya, ces périodes d'ignorance. Alors aujourd'hui, on va voir deux hadiths, inshallah. Alors, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte le hadith de Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'u al-layli hatta tatlu' ash-shamsu min maghribiha. رواه مسلم. إذا زال الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. Donc dans ces deux hadiths ont comme point commun de montrer quelle est la limite dans le temps concernant le tawba. Le premier hadith explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à n'importe quel moment, de la journée ou la nuit. Le matin, Allah subhanahu wa ta'ala, l'expression c'est tend ses mains. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend le repentir du musulman toute la matinée pour que le pécheur de la nuit demande pardon. Et le soir, Allah ta'ala, il tend sa main pour que le pécheur de la matinée, le matin, Allah tend sa main pour que le pécheur de la nuit demande pardon. Et le soir, Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main pour que le pécheur de la matinée demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama, ils expliquent, ça veut bien dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend un premier pas de la part du pécheur. Allah ta'ala, il est prêt à accepter notre tawbah, mais il faut que l'homme, l'être humain, il reconnaisse ses erreurs et qu'il fasse le premier pas vers Allah en se courbant, en se prosternant, en levant ses mains et en demandant pardon, tawbatul nasuha à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire qu'une personne, il peut faire péché le 1er janvier 1990, et là maintenant, en 2009, elle entend une parole, ou alors elle entend que telle chose était haram, ou elle a hidayah dans son cœur, Allah il guide son cœur, et cette personne, elle désire demander à Allah Ta'ala pardon pour un péché accompli il y a 20 ans. Allah Ta'ala est capable de pardonner. Je ne dis pas qu'Allah est capable, Allah il pardonne. C'est-à-dire dans le temps, il n'y a aucune limite, n'importe quel moment de l'année, de n'importe quel endroit où on peut être, si l'être humain, il retourne sincèrement auprès d'Allah, Allah pardonne le péché de cette personne. Mais il y a deux limites. La première limite, c'est quoi? C'est lorsque le soleil se lèvera à l'est. C'est-à-dire, à la fin du monde, lorsque le soleil se lèvera à l'est, là, Allah Ta'ala n'acceptera plus de tawbah. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura ce signe, il n'y a plus besoin de ilmul ghaib. Il n'y a plus besoin de croire en l'invisible. Parce que les gens vont voir quelque chose qui est inacceptable, qui est impossible sur le plan scientifique, astrologique, ce que vous voulez. Donc ils vont comprendre que ça c'est la promesse divine. Ce que Mahomet a dit, ce que leur Dieu disait, ce que les musulmans disaient, on croyait que c'était des fables ou c'était des histoires. Mais là nous voyons de nos propres yeux le soleil qui se lève d'un côté inhabituel. Donc là, il n'y a plus besoin d'avoir iman. Là, les gens, ils vont accepter en masse l'islam, ils vont demander pardon, mais le pardon ne sera plus accepté. Parce que c'est considéré déjà comme la fin du monde. Ça, c'est la première limite. Mais ça, peu de gens vont voir. Inch'Allah, nous ne le verrons pas. Voyez ? Parce que lorsqu'il y aura cette île, il n'y aura plus de mu'minine sur la terre, Inch'Allah. L'autre limite, le deuxième hadith, ça nous concerne tous. Et personne n'échappera à ce moment. On appelle ma lam yurarghib. On appelle ça en arabe al-rarghara. Al-rarghara, c'est quoi ? C'est l'agonie. C'est lorsque la personne est en train de mourir. Que ce soit une mort naturelle. Que ce soit une mort sur un lit d'hôpital, qu'Allah nous protège. Que ce soit une mort dans un accident, qu'Allah nous protège également. À partir du moment où l'être humain, ou le musulman, est en train de quitter ce dunya, et que le ruh est en train de sortir du corps, et lorsque le ruh, l'âme, quitte le corps, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Aucun être humain ne peut supporter cette douleur. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il souffrait atrocement au moment de mourir. Alors que Jibril alayhi sallam a pris tellement de précautions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme jamais il n'a pris pour un être humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souffrait, il disait Wallahi, inna lil mawti sakarat. En ce sens, il dit je fais qasam par Allah que pour la mort, il y a une agonie très dure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même disait Zahaba, que le sakarat de la mort c'est difficile. C'est terrible, alors que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont les péchés avaient déjà été pardonnés. Ah, les péchés, ses péchés antérieurs et futurs étaient pardonnés. Malgré cela, pour que son âme quitte son corps au barat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souffert. Donc, à ce moment précis, lorsqu'une personne est en train de mourir, son tawbah n'est plus accepté. Les ulama disent que si quelqu'un est en train de mourir, et que tout d'un coup il dit que voilà, j'ai un bâtiment, je donne ça à waqf. Pour la madrasa, je donne ça pour les pauvres, ou alors vendez ça, de distribuer aux gens, là c'est plus accepté. Parce qu'il est déjà, il a déjà un pied dans la tombe. Et c'est bien déjà, c'est en train de passer aux mains de ses héritiers. Et ça c'est le pardon, ou alors la générosité du désespéré. Celui qui sait qu'il n'y a plus rien après ça, c'est fini. La partie est terminée. C'est comme si que, il y a Lyon-Barcelone, vous savez, l'exemple, excusez-moi, c'est décalé, mais comme on est un public jeune, on essaie de s'adapter. Lyon-Barcelone, ils ont égalisé un à un, et là ils savent qu'ils vont aller là-bas, au Camp Nou, ça va être impossible. Ils vont se faire écraser. Vous voyez ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben, il y a un joueur, tout d'un coup, son coco, il bloque, le rabais finit siffler, il prend le ballon, il s'avale, il tire 3, 4 coups de ballon, il fait rentrer dedans. Est-ce qu'on compte ça comme 4 hein ? Jamais de la vie, ça n'a aucun sens. De la même manière, quelqu'un qui est dans le sakarat ul maut, l'exemple est décalé, excusez-moi, lorsqu'une personne est dans le sakarat ul maut, c'est fini. Il peut faire un khatm al-Qur'an. Il peut amener les plus grands fundis, les plus grands ulama, mufti du monde entier. Ils viennent faire droit pour lui, c'est terminé. Al-Gharghara, l'agonie de la mort, c'est terminé. C'était avant, lorsqu'on était en bonne santé, lorsqu'on avait tout, c'est là qu'il fallait avoir la crainte d'Allah. Après ça, c'est fini. Après ça, on est en train de comprendre qu'on va mourir. Donc il n'y a plus besoin d'être un grand mu'min pour comprendre ça. On est en train de le vivre. On est en train de le subir. Donc ça, c'est la limite où Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte plus le pardon. Alors, il y a quelque chose, les ulama disent que, comme on vient de dire, Allah, il peut accepter le pardon n'importe quand. Mais un musulman se doit de demander à Allah Ta'ala pardon le plus vite possible. S'il se rend compte qu'il a fait un péché, il doit immédiatement demander à Allah Ta'ala pardon. Et ça, c'est une preuve de présence de iman. Dans un verset du Coran, on ne va pas trop tarder aussi. Ma minuterie ne marche pas, donc je ne sais pas combien de temps je parle. Allah Ta'ala dit le Coran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعِشَا. Les personnes qui font des qui ont fait traduction approximative, hein, qui ont fait un péché, ils se sont fait du tort, c'est-à-dire en faisant un péché. Ils ont pensé à Allah. Le musulman il fait un péché, il sait qu'il a fait une bêtise, il pense à Allah tout de suite. Ah Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai regardé cette femme de la rue? Oh Allah, pourquoi j'ai écouté mes amis, pourquoi j'ai bu? Ils buvaient de la bière, je me suis assis avec eux, il ne fallait pas s'asseoir. Et j'ai bu deux gorgées. Pourquoi j'ai fait ça? Zakarullah. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ إِنْ دُوَانَ تَعْدُوا اللَّهُ فَعْدُوا. Et Allah dit وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Et après, Allah qui pardonne les péchés? Nous on n'est pas de ces peuples, de ces aqwam qui vont voir leur fundi ou qui vont voir leur mufti, je ne veux pas préciser, et ils disent que voilà, je fais tel péché, je veux votre pardon. Nous, le alim, le fundi, il ne pardonne pas lui. Le pardon c'est entre le serviteur et Allah direct. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Et Allah dit bien que Dieu, c'est quoi ? وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils ne font pas israr. il ne répète pas les mêmes erreurs. PSM, premièrement, dès que le péché était accompli, elle se rend compte que j'ai été piégée par Shaitan. Elle pense à Allah tout de suite, oh Allah, pourquoi j'ai fait ça? Fastar Farou, les deux noms, il demande, oh Allah, pardon, et il ne recommence plus, il ne recommence plus ce même péché. Oula, et ensuite, Allah Ta'ala annonce quelle est la récompense de ces gens. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a participé au Hajj, quelqu'un qui a donné 1000 dirhams en sadaqa, quelqu'un qui a fait un péché. Allah annonce son degré dans le paradis. Ça peut paraître paradoxal. Annoncer le degré dans le paradis d'une personne qui est morte du chemin d'Allah, je comprends. Mais annoncer le degré du paradis pour quelqu'un qui vient de faire une bêtise, ça prouve que lorsqu'Allah il voit que le serviteur il reconnaît ses erreurs et qu'il se courbe, il fait preuve d'humilité, il retourne auprès d'Allah, il retourne vers Allah, Allah il aime cette personne. Et Allah il élève le daraja, le degré de cette personne, quand Allah il sait que ce monsieur-là, ou cette dame, il est ou elle est sincère dans son repentir. Alors mes chers frères, il faut savoir quelque chose, que Shaitan, il est extrêmement malin. Shaitan, il est malheureusement extrêmement malin, et il a plus d'un toit dans son sac pour entraîner le musulman dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les pièges de Shaitan, il y a quelque chose qu'on appelle en arabe « at-taswif ». C'est quoi « at-taswif » ? « At-taswif », ça vient de la particule « saufa ». En arabe, on utilise « saufa » pour le futur. Shaitan, c'est quand il fait « at-taswif », il dit « bon, on a fait une erreur, après on demande pardon. Attends, encore jeune là, après. Laisse, cumule tout, on va demander un bon tauba ou ramadan, et dans un mois, là on va demander pardon à Allah, et puis c'est fini. At-taswif. Shaitan, il ne veut pas qu'on demande pardon tout de suite. Il sait que plus le temps passe, plus il y a de chances qu'on oublie le péché. Et le péché oublié est inscrit. Et Shaitan, il sait également que Allah, il a ordonné aux anges, lorsqu'une bonne action est inscrite, et on a l'intention de faire une bonne action, il faut, ça on verra par la suite dans notre base, il faut l'écrire tout de suite. Et si on le fait 10 fois plus. C'est-à-dire que pour les péchés, on a le niat de faire un péché, tant que le péché n'est pas accompli, personne n'écrit. Et lorsque le péché est accompli, les anges attendent. Est-ce qu'il va demander pardon à Allah? Peut-être qu'il va se repentir. S'il ne demande pas pardon, là les anges écrivent. Mais si les anges voient que la personne regrette et demande pardon, le péché n'est même pas inscrit. Ça c'est la générosité d'Allah. Mais Shaitan il est au courant de ça. C'est pour ça qu'il va vous dire, attends, lorsqu'on jeûne, plus tard on va demander pardon. Attends quand la barbe devient un peu blanc, la barbe pousse, après elle va devenir blanc, là on va demander pardon. Ça c'est un piège de Shaitan, à nous de réaliser que, clair, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des anges qui ne font pas de péché. S'il nous arrive de faire une erreur, on demande à Allah pardon sincèrement, immédiatement, et on peut le nier de plus recommencer ce péché qu'Allah accepte. Voyez. Et il faut qu'on comprenne bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que la mort, c'est réservé pour les vieux. Ça, c'est une erreur, ça. Il y a beaucoup qui pensent qu'on a besoin de venir à la mosquée, besoin de faire de grands pieux, là. Non, quand le temps pour vivre à 40 ans, on a la sagesse, 60 ans, la retraite, là, on va venir à la mosquée, comme tout ce qu'on dit, ben allez âgés. Où les jeunes viennent exactement, tout ça ressemble. Allez profiter, jeunesse. Non. Qui a dit que Malek al-Maut ne vient prendre que l'âme des personnes âgées? Dans chaque famille, chaque personne présente, on a au moins une connaissance d'un jeune qui est décédé à l'âge de 15, 16, 20 ans, ou alors avant l'âge de 30. Pendant, on avait des amis il y a 10 ans de cela, deux camarades très proches qui avaient notre âge, ils sont tous les deux décédés en même temps dans un accident de voiture. Ils avaient 15 ans. Est-ce qu'on meurt à 15 ans? Oui, on meurt à 15 ans. Oui, on peut mourir à 17 ans. Oui, on peut mourir à 20 ans. Et si, à cet âge-là, on n'a pas demandé pardon à Allah? Vous croyez qu'Allah il va dire que bon, ça c'est un jeune, il avait encore le temps? Non! À partir du moment où la personne est balire, elle atteint l'âge de la puberté, garçon comme fille, le livre de compte, tout ce qui est écrit comme bien ou comme mal est comptabilisé. Toute action, toute parole qu'on accomplit. Donc à nous de prendre conscience de l'importance de demander pardon à Allah immédiatement, s'il nous arrive par mégarde de tomber dans les pieds de Shaitan. Deuxième hadith, hadith très long qu'on va dire en français, on connaît cette histoire, en général on ne vous apprend rien de nouveau, c'est juste un petit muzakara. Hadith dans lequel le prophète sallam dit que dans les communautés auparavant, il y avait un meurtrier, une personne qui avait l'habitude de tuer des gens. Les gens auraient appelé ça un serial killer, ou un psychopathe, je ne sais pas comment on aurait appelé ça. Il avait tué 99 personnes. Il avait tué 99 personnes. À un moment donné, il s'est rendu compte de ses erreurs. Il voulait demander pardon à Allah, retourner vers Allah, mais il n'avait aucune connaissance. Il voulait trouver la personne qui était le plus proche de Dieu. Il est parti voir un rahib, une personne qui s'était retirée des gens. Il faisait que le ibad, que les actes d'adoration. Vous pourrez appeler ça un émi. Quelqu'un qui ne vivait pas avec les gens, il faisait les zikrullah tout le temps, namaz, il faisait que ça. Et il va voir cette personne, il dit que ben voilà, j'ai tué 99 personnes. Est-ce que vous pensez qu'Allah va me pardonner? Imaginez-vous-même, tuer quelqu'un, on sait quelles sont les conséquences de ce dunya de l'akhirat. Lui n'a pas tué un, lui, il a tué 99. Je ne sais pas, est-ce que de nos jours, sur cette terre, il existe quelqu'un qui a déjà tué 99 personnes? Et on va pas rentrer dans les détails comment on tue quelqu'un, mais dans ce cas-là, hein, à l'époque, il y a, c'est pas l'époque de Prophète, dans les Banu Israël, ça, il y a peut-être allez, 20, 21, 22 siècles, Allahu a'lam, c'est pas précisé. Il y a plus de 2000 ans. Comment tuer quelqu'un? Ben, individuellement, il n'y avait pas de fusil, il n'y avait pas de mitraillette, on peut tuer toute masjid dans 10 secondes. T'as-t-il? Mais il n'y avait même pas de pistolet, c'était à l'arme blanche. Donc, pour tuer quelqu'un, il faut du temps, il faut se battre, il faut. T'as-t-il? Donc, pour tuer 99 personnes, il fallait vraiment être motivé. Alors que de nos jours, on appuie sur un bouton, il y a peut-être 20 personnes qui meurent. Donc, tuer 99 personnes à cette époque, c'était vraiment une personne malade. T'as-t-il? C'était quelqu'un qui aimait le sang, qui aimait tuer. T'as-t-il? Alors, imaginez le degré de ce péché. Et là, cet homme pieux, cet adorateur d'Allah, il dit qu'il n'y a plus de tawbah pour toi. Jamais Allah ne te pardonnera pas. Il est fini pour toi. Tellement cette personne était en colère qu'elle a tué l'homme pieux. Elle arrondit, j'aime bien faire des choses, je travaille propre 100. On arrondit à 100, c'est un chiffre décimal. On ne va pas se compliquer la vie de 100. T'as-t-il? Et là, il se rend compte que, astaghfirullah, j'ai tué une centième personne. Et là, les gens ils ont indiqué qu'il y a telle personne, il y a un alim qui habite tel endroit. Il est parti voir ce alim, et ce alim lui a dit que, oui, Allah il te pardonnera, mais quitte ce village, va habiter avec ces gens-là. Dans tel village, il y a des gens pieux qui habitent là-bas, va rester avec eux et demande pardon à Allah. On connaît l'histoire, il est parti là-bas, et en chemin, il est mort. L'ange de la mort a pris son âme, et là, dans cette inversion, il dit qu'il y a l'ange de l'azab qui vient, l'ange de la malédiction et l'ange de la bénédiction. Un qui dit que oui, mais il a tué 99 personnes, ça c'est un monde de l'enfer, laisse-moi son âme. Là, il dit non. Il voulait retourner vers Allah. Allah acceptera son repentir. Laissez-moi le prendre. Et Allah Ta'ala a demandé aux anges de cette inversion de regarder est-ce qu'il était plus proche du village des gens pieux ou de son village. Comme il était plus proche du village des gens pieux, c'est l'ange de la bénédiction qui a pris son âme et c'est quelqu'un qui a quitté ce dunya avec le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on comprenne à travers ce hadith, cette histoire, que jamais un musulman ne doit se dire, et ça c'est un piège de shaitan. Et Shaitan, surtout, il touche les jeunes, et il touche les gens très éloignés de la religion avec ça. Il dit que tout sa bêtise qu'il fait, depuis 5-6 ans, tous les samedis soirs, on boit, ou boit, ou lève le matin, ou les sous, ou toute la nuit, ou lève le matin à 10h, là, et puis, ou ça trouve votre camarade, ou fume zamal, ou fait telle bêtise, etc. Et ou bien présent toute tête à la mosquée, vous n'avez pas un peu la honte. Où il est trop sale, il faut aller à la mosquée, dégage, bon, Allah ne veut pas voir le monde sale comme nous. Ça, c'est un piège de shaitan. Il fait croire à la personne qu'on est trop sale, on a fait trop de péchés et que Allah ne nous acceptera pas. Je vous pose la question, est-ce que quelqu'un de cette assemblée a déjà tué une personne? On dira personne, hein, c'est pas enregistré. Oui. Je pense que non. On a peut-être tué un chat, au pire des cas en voiture, mais pas plus que ça. Est-ce que quelqu'un, il a déjà tué 10, 20, 30 personnes? Même si on a vu un tonneau de Beclé, un tonneau de Dodo, un tonneau de Phoenix, où on a essayé toutes les boîtes de La Réunion, de Mayotte, de Madagascar, de l'Afrique et tout, mais qu'on se rend compte à un moment donné, avec sincérité, que je suis parti trop loin. Et que lorsque l'ange de la mort va prendre mon âme, qu'est-ce que je vais répondre à Allah Ta'ala? Quand on me posera les questions dans la tombe, qu'est-ce que je vais dire? Et là, la personne se rend compte de son erreur et qu'elle veut retourner vers Allah, je vous donne ma parole et ce n'est pas la mienne. C'est la promesse d'Allah, la promesse de son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, que cette personne, Allah, il accède son repentir en quelques secondes. Si son cœur est propre, si vraiment il se dit, oh Allah, c'est fini, j'ai fait des erreurs, je regrette, je veux retourner vers toi, Wallah il azim, Allah ta'ala, il peut accepter le repentir de cette personne, car Allah, il voit dans le cœur qui est sincère de la personne qui fait des péchés dans le but de demander pardon par la suite. Attends, ça a dit. Les ulama disent également qu'on voit la différence entre quelqu'un qui passe son temps à adorer Allah sans ilm et quelqu'un qui a la connaissance. Regardez cette personne qui était un homme pieux, elle n'avait pas la science religieuse. Alors la personne qui n'a pas la science religieuse, très souvent, elle tombe dans deux erreurs. Un, elle ne sait pas distinguer une action qui est attachée à la sunna d'une bid'at. Une innovation de la religion, elle va voir quelqu'un faire telle chose, lire telle affaire, telle grandit, fait telle chose, elle va faire. Elle ne sait pas, mais elle va passer peut-être toute la nuit à faire quelque chose qui n'existe pas de le Coran et de l'Hadith. Ça, c'est grave. Entre deux, dans certains moments où Allah, il pardonne, où Allah, il fait preuve de largesse, la personne, elle ne sait pas tout ça. Et elle va être dure. Il y a des gens qui sont tellement fermes, tellement durs dans la pratique de la religion, qu'ils peuvent vous dégoûter de la religion. Et ça, c'est grave. Une personne qui, par son comportement rigoriste, il dégoûte quelqu'un de la religion. Alors que la religion, c'est simple. Al-Fatah me dit, yassiru wa la tu'assiru. Bashiru wa la tu'nassiru. Annoncez des bonnes nouvelles, n'annoncez pas de mauvaises nouvelles. Facilitez les choses. Ne compliquez pas les choses. Il y a des gens tellement, ils se croient pieux, mais ils rendent la religion compliquée. C'est par leur ignorance. C'est pour ça que moi je dis tout le temps, il n'y a pas d'extrémisme de l'islam. Il y a de l'ignorance. Quand on ne connaît pas notre dîme, on va dire que non, c'est comme ça, Allah a dit ça, le prophète a dit ça, il n'y a pas d'autre solution. Donc ça, c'est la différence entre quelqu'un qui a le ilm et quelqu'un qui n'a pas le ilm. Donc on comprend à travers ce hadith que Allah Ta'ala, il accepte le repentir d'une personne à partir du moment où la personne est sincère, elle retourne vers Allah. Et on voit également que, le hadith est un peu long, je pense qu'on va s'arrêter là, que lorsque, par exemple, concernant une personne qui a tué quelqu'un, bon, elle doit demander pardon à Allah, mais elle doit se rendre à la famille du défunt et dire, voilà, c'est moi qui ai tué votre frère ou votre père, et là, la famille décide, hein, s'ils l'exécutent, voilà, ils prennent le prix du sang ou autre chose. Donc, ça, c'est dans les pays de la charia. Mais les ulama disent qu'on comprenne bien que lorsqu'on a fait du tort aux gens, on demande à Allah pardon et on va se rendre auprès des gens. Et on répare l'erreur qui a été faite, comme vous l'avez déjà expliqué, hein, la dernière fois. Si vous me permettez, un dernier hadith, on va terminer avec le bab de Tawbah. Et la prochaine fois, on va voir un autre bab. Ça, c'est un hadith extrêmement important. Dans lequel le prophète sallam a dit, Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Qalu man al-mujahirun? Qala alladhi yaf'alu dhanba thumma yastaruhu Allahu alayhi. Yasturuhu Allahu alayhi thumma yusbihu yata'addatu bih. Prophète dit un hadith, rapporté par Bukhari dans Al-Adab et Muslim également. Il dit que toute ma communauté, toute ma ummah est pardonnée par Allah. Yani, n'importe quel musulman, comme on a dit, qui demande pardon, Allah accepte son pardon. Sauf une catégorie de personnes. C'est quoi? C'est qui, pardon? Celui qui fait un péché en cachette. C'est-à-dire, Allah a caché son défaut et qui, le matin, il se vante de ce péché. Dans quelqu'un, il a été fait une bêtise ce soir à Saint-Gilles et le lendemain, il va voir ses camarades qui soit en partie boîte là, comme ça. Malattrape 2 centimes, malavoir 5 bières, malade défoulé. La personne, elle n'a pas honte d'avoir désobéi à Allah. Non seulement elle n'a pas honte d'avoir désobéi à Allah, mais elle n'a pas honte de montrer aux gens ses péchés. Et de la sorte, elle est en train d'inciter les autres à faire le péché. Cette personne-là, Allah le déteste. Ça, c'est grave. S'il nous arrive par erreur de faire un péché, on doit le garder pour nous, ne jamais être fier d'un péché. Parce que la personne qui est fier de ses péchés, qui annonce à ses amis, je fais telle chose, j'ai attrapé telle affaire, je fais tel péché, cette personne-là, son repentir n'est pas accepté par nous. Ça qu'on comprenne bien. Donc, quand une personne fait un péché, elle doit regretter et elle doit avoir honte de son péché. Et regardez, il y a un dernier hadith dans lequel le prophète raconte l'histoire d'une femme, une sahabia. À l'époque, le prophète, elle avait fait le zina, l'adultère. Et là, regardez, iman des sahaba. Elle sait qu'elle a fait une erreur. Elle va voir le prophète, oh prophète d'Allah, j'ai fait tel péché. Je veux que tu appliques la sentence. Et dans la charia, à l'époque, la sentence c'était la lapidation. Pour l'homme comme pour la femme. Et là, le prophète va dire à sa famille, gardez votre fille jusqu'à ce qu'elle enfante, qu'elle ait son enfant. Et ensuite, elle vient et puis on appliquera la loi d'Allah. Bref, les ulama disent que regardez le iman des sahaba. Le iman bil ghaib, le foi en l'invisible, dépassait leur sensation. Elle savait c'était quoi mourir à lapider. Voyez? Mais elle savait également c'est quoi la punition d'Allah pour le zina. Les sahaba, ils savaient c'était quoi la punition de l'akhirat et ils préféraient souffrir de ce dunya plutôt que de voir Allah avec des péchés et de subir le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ta'ala nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles et qu'Allah subhanahu wa ta'ala remplisse nos cœurs de iman et que s'il nous arrive, parce que ça arrive à tout le monde, quel que soit le degré de la personne, quand il nous arrive de faire des erreurs, qu'on regrette et qu'on cache ce péché et qu'on demande à Allah immédiatement pardon, avec sincérité et regret et avec le niais de ne plus jamais recommencer et qu'Allah transforme ses péchés en bonne action, illumine nos cœurs et nous ramène sur le droit chemin, ainsi que tous nos frères qui ne sont pas là. Hein, combien de personnes parmi nous ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas venus à la masjid, ils ne font pas cela. Et nous devons avoir si calme pour ces gens, donner da'awat à ces gens, les ramener à la masjid et désirer la hidayat pour eux comme nous désirons pour nous. Alors, les choses n'est pas coutume, hein. On va faire un petit doigt collectif pour donc, notre imam Mouana Hassan, dont le papa est très malade. Hein, chacun intérieurement demande doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la santé à cette personne. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير وإليك يا ربنا يرجع الأمر كله فأنت إلهنا أهل لأن تحمد وأهل لأن تعبد وحدك لا شريك لك فإياك نعبد وإياك نستعين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشفنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اذهب البأس يا رب الناس اللهم اذهب البأس يا رب الناس اللهم اذهب البأس يا رب الناس نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.